Bienvenue au balado des attachés de presse. Donc, bienvenue, chers auditeurs, auditrices, à ce nouveau balado des attachés de presse. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de Renaud Duval, donc un habitué de nos balados du mercredi.
Salutations.
En compagnie aussi de professeure Karine Prémont, qui est professeure ici même à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, mais aussi directrice adjointe de la chaire Raoul Dandurand. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Puis aussi, Mélina L'Espérance, qui est étudiante aussi à l'École de politique appliquée, qui s'intéresse aussi aux questions qui entourent les États-Unis.
Merci de l'invitation.
Donc, professeur Prémont, on vous reçoit aujourd'hui parce que, en fait, j'ai lu votre livre, « La puissance américaine mise en échec ». Puis je trouvais ça intéressant, ce point de vue-là, parce que dans votre livre, on voit quand même beaucoup de mise en échec de la puissance américaine sur la scène internationale. Puis, ce que je remarque au cours de mes études, c'est que souvent, notre vision est un peu façonnée un peu par ce qui se dit dans l'opinion publique. Puis on voit souvent un côté de la médaille. On voit évidemment le côté occidental. D'où vient votre intérêt pour écrire cet ouvrage?
Ben évidemment, moi, je suis passionnée par la politique américaine depuis que je suis très jeune. Alors, c'était pas une erreur ou un hasard que je travaille là-dessus. Et comme j'ai étudié en politique étrangère, ben, je trouvais ça intéressant de revenir sur les moments marquants de la politique étrangère. Puis, ce livre-là vient d'émissions que j'ai fait à Aujourd'hui l'Histoire à Radio-Canada, où en 20 minutes, à peu près, on doit raconter des événements marquants. Alors, je me suis dit que ce serait intéressant de mettre tout ça ensemble puis de voir justement quels sont les moments charnières. À quel moment la puissance américaine a dû déployer différents outils pour se conserver, pour se maintenir, parce que c'est un peu ça l'objectif des grandes puissances. Puis là, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'échecs finalement, il y avait beaucoup de demi-succès à tout le moins, ou en tout cas d'événements qui se sont pas déroulés comme les dirigeants l'auraient souhaité. Puis je me suis dit, ben justement, cette vision hollywoodienne de la puissance américaine, cette vision un peu idéalisée des États-Unis qui sont forts, qui réussissent tout, ben ça permettait de mettre un peu les choses en perspective. L'idée, c'est pas de dire que les États-Unis font tout faux ou tout bien, mais c'est plutôt de voir que finalement, ben il y a des essais et des erreurs, puis c'est ça qui construit l'imaginaire concernant les États-Unis. Sa puissance, en fait.
Vous avez grandi au courant de la fin de la guerre froide. À quel point ce que vous avez vu, soit dans les médias ou ce que vous avez constaté lorsque vous étiez jeune, a marqué un peu, en fait, votre vision de la politique américaine?
Si on veut entrer dans les anecdotes plus vécues, là, moi, j'ai une grand-mère qui était passionnée par les États-Unis, qui avait travaillé sur des bateaux de la marine marchande américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis qui avait été complètement fascinée par les marins américains, je dois dire. Elle arrêtait pas de me dire comment ils étaient beaux, puis ils étaient forts, puis ils étaient bronzés, puis ils avaient des belles dents. Alors, elle était bien impressionnée de tout ça. Alors, elle m'a beaucoup parlé de ça. Elle m'a parlé beaucoup de Kennedy. Il y a une espèce de mythe aussi autour de Kennedy avec son assassinat. Ça en a fait un personnage un peu mythique. Fait que moi, j'ai grandi dans cet environnement-là. Mes grands-parents, comme beaucoup d'autres de leur génération, étaient plutôt anglophiles dans la mesure où ma grand-mère vient de Mansonville, tout près d'ici. Donc, c'était des villages anglophones essentiellement. Puis ils baignaient de culture américaine, puis mes grands-parents ont toujours écouté la télé en anglais, suivi les nouvelles des États-Unis. Puis à partir de ce moment-là, moi, ça a baigné beaucoup mon imaginaire aussi. Ma culture, elle est beaucoup américaine aussi. Mais c'est vraiment plus tard, là, j'ai décidé de me lancer plus en détail, de façon plus organisée, si on veut, dans la politique américaine. C'était vraiment cette fascination-là pour une société qui est capable du meilleur et du pire, qui est à la fois une grande puissance, mais en même temps qui traîne un bagage historique, là, notamment concernant le racisme, assez particulier. Donc, ce sont ces contrastes-là, en fait, qui m'ont beaucoup intéressée. Puis c'est pour ça que j'ai décidé d'étudier la politique américaine. Puis je m'étais dit, en plus, ben je le ferai sans émotion, parce que si j'étudie la politique canadienne ou québécoise, comme je vote, comme je suis citoyenne, ben je vais être biaisée forcément, alors que si j'étudie la politique américaine, je serais pas biaisée. Et puis arrive Trump et là, on a un autre discours. Mais enfin, l'idée, c'était de sortir de l'émotivité politique, en fait, et les États-Unis m'apparaissaient intéressants pour ça aussi.
Mais justement, on voit les États-Unis comme cette superpuissance-là, puis vous mentionnez dans le livre que les thèmes que vous avez choisis, justement, c'est parce que ça représente cette arrogance-là qui vient d'être une superpuissance.
Ouais.
Moi, je me demande, en fait, est-ce que ça vient juste d'être une superpuissance ou s'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent expliquer cette arrogance-là?
Ben, c'est une arrogance historique, je vous dirais. Puis arrogance, là, des fois, ça peut être une bonne chose, des fois, ça peut en être une mauvaise. Quand on a les moyens de nos ambitions, c'est plus tellement de l'arrogance que de la puissance, mais quand on a moins les moyens, peut-être que là, c'est plus de l'arrogance, mais c'est une arrogance qui est historique dans la mesure où les États-Unis se sont construits sur la base de valeurs qui étaient différentes de celles qui ont construit l'Europe, par exemple. Ce sont des gens qui fuyaient des persécutions religieuses, des persécutions politiques, puis qui avaient un idéal des Lumières, en fait, et qui souhaitaient mettre en place une société sans classe, pas dans le sens communiste du terme, mais dans le sens aristocratique, là. Donc, on s'est construit sur des bases de valeurs plus libérales, en fait, que les pays d'Europe, là, qui étaient d'anciens empires, voire qui étaient encore des empires à ce moment-là. Et ça vient du succès américain aussi, parce que il faut se rappeler, 200 ans, c'est long dans une vie humaine, parce qu'on vit pas 200 ans, mais en termes historiques, c'est pas très long. Et en 200 ans, les États-Unis sont passés d'un statut de colonie à un statut de superpuissance. C'est quand même pas rien. Ils ont connu beaucoup de succès rapidement, du succès militaire, du succès économique, du succès culturel, du succès politique, du succès sociologique. Alors, à partir de ce moment-là, c'est devenu un modèle pour tous. Notre mode de vie canadien, québécois est très américain. On va en Europe, on retrouve beaucoup d'américanité aussi en Europe. On va en Australie, on peut écouter CNN, on peut... Donc, on a accès à cette américanité-là, qu'on soit au Québec ou ailleurs. On le remarque quand on voyage. Et quand vous demandez à des gens d'Asie, des gens d'Afrique, des gens d'Amérique du Sud, à quoi vous aspirez comme modèle de vie, ben souvent, c'est le rêve américain qui ressort parce que c'est un modèle idéalisé, c'est un modèle de prospérité, de qualité de vie, d'égalité, qui est illusoire quelquefois, bien sûr, mais qui est inégalé en termes d'attrait dans l'histoire. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent vivre comme les Chinois ou qui veulent vivre comme les Indiens ou qui veulent vivre comme des Sénégalais. Pas parce que ces cultures-là sont pas importantes ou sont pas intéressantes, mais parce que ce sont pas ces modèles-là qui ont capturé l'imaginaire des gens. Mais il faut dire que la culture américaine, le mode de vie américain est marketé par Hollywood, est marketé par la culture populaire. Mais ça aussi, c'est inégalé. Là. La culture populaire chinoise, on la connaît pas, nous, ici. Alors que la culture américaine, on la connaît partout. Quand vous regardez le top 10 des films les plus populaires dans le monde, tout pays confondu, il y en a au moins 8 qui sont américains. Là. Alors, c'est une culture qui a absorbé celle des autres aussi. Puis ça peut avoir des points négatifs, mais c'est ça l'idée aussi, c'est que cette arrogance-là vient du fait d'un succès inégalé à bien des égards dans bien des domaines sur une histoire relativement courte. Là, en fait.
Moi, j'aimerais vous demander, selon vous, c'est quoi les éléments déclencheurs, ce qui a amené à cette montée en puissance américaine? On sait qu'avant, c'était les empires européens qui dominaient le monde. Qu'est-ce que vous placeriez comme point marquant, en fait, qui marque un pivot puis que les Américains deviennent vraiment l'hégémon mondial?
Ben, ça se passe avec les guerres mondiales, essentiellement. Avant ça, il y a un certain succès économique, mais les États-Unis, jusqu'à la Première Guerre mondiale, sont davantage dans une position d'isolationnisme. Washington l'avait bien dit quand il a quitté la Maison-Blanche en disant « il faut éviter de se mêler à ce qui se passe en Europe. Contentons-nous de notre environnement proche, là, ce qui incluait l'Amérique latine par ailleurs, et faisons commerce et enrichissons-nous, parce que c'est ça la clé du succès, c'est de s'enrichir. Il faut que tous nos citoyens soient capables de vivre décemment, soient capables de s'offrir tout ce qu'ils veulent. Il faut que chaque citoyen puisse, s'il le veut, s'enrichir. Et ça fonctionne relativement bien, jusqu'à temps qu'effectivement, la Première Guerre mondiale survient. Et là, on se rend compte de la puissance militaire américaine, surtout par rapport au déclin des autres puissances par ailleurs. C'est pas les États-Unis tout seuls qui deviennent forts tout d'un coup, c'est les autres puissances qui s'effondrent à un moment donné. Puis dans les deux guerres mondiales, les États-Unis arrivent d'une certaine façon à un moment crucial pour sauver un peu tout le monde, alors que toutes les autres puissances sont un peu là.
Drainées.
Exactement. Donc, à ce moment-là, ça paraît bien. Les États-Unis arrivent, ont une puissance fraîche, ont beaucoup d'hommes aussi dans l'armée, sont capables de mobiliser beaucoup de gens. Alors, tout d'un coup, ils arrivent, ils mènent des batailles décisives. Il y a une certaine stratégie militaire là qui fonctionne bien du côté américain. Puis ces gains-là, l'aide américaine pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale consacre les États-Unis comme superpuissance, surtout qu'après la Première Guerre mondiale, les empires s'effondrent là avec la décolonisation, tout ça. Donc, ce qui reste, ce sont les États-Unis à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ça devient difficile pour les États-Unis de s'éloigner des affaires du monde. Ça devient difficile pour le reste du monde de ne pas prendre en considération les intérêts américains. Donc, c'est vraiment les conflits mondiaux, je pense, qui consolident là, cette puissance américaine-là.
Mm-hmm. Moi, je m'interroge sur la temporalité de votre livre, parce qu'on commence justement à partir de la guerre froide, mais on réalise qu'il y a beaucoup d'autres échecs qui ont lieu avant la guerre du Vietnam sur le plan politique, de la politique étrangère, comme la non-ratification du traité de Versailles en 1918. Donc, je me demandais pourquoi avoir choisi la guerre froide comme point de départ.
C'était l'apothéose de la puissance américaine d'une certaine façon. C'est la période que je connais le mieux aussi. C'est une période que j'ai vécue en partie. Pas 1950, je vous rassure tout de suite, mais c'est une période que j'ai vécue en partie. Alors, j'étais capable d'avoir une vision peut-être un peu plus globale de tout ça. Mais c'est par intérêt, je vous dirais essentiellement, mais aussi parce que c'est selon moi, le symbole suprême de la puissance américaine, c'est pendant la guerre froide.
Puis, qu'est-ce qui marque un peu la période post-Seconde Guerre mondiale, puis pré-guerre froide, si je peux dire ainsi? C'est la mise, l'essor de la CIA. Puis, c'est le premier chapitre de votre livre. C'est quoi le rôle qu'on donne à ce moment-là à la CIA en termes de politique étrangère?
C'est d'espionner. Essentiellement, la CIA, c'est une agence d'espionnage. Depuis le début, ça fait suite à l'OSS qui était l'organe d'espionnage des Américains avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc jusqu'en 1947. Et c'était une organisation qu'on utilisait surtout pendant les conflits, justement, pendant les guerres mondiales. Puis après ça, on s'est dit, si on veut assurer comme nouvelle superpuissance, si on veut assurer notre protection, si on veut assurer cette domination-là, si on veut la maintenir, parce qu'une fois qu'on est puissant, faut le rester. Alors, comment on fait, il faut savoir ce que les autres font, ce que les autres veulent, ce que les autres préparent, et ça nous prend une agence de renseignement qui soit démilitarisée d'une certaine façon. Alors, on va créer la CIA en 1947, et la CIA, à ce moment-là, a beaucoup de pouvoir, elle a des budgets importants, et il y a beaucoup de secrets qui entourent les budgets, évidemment, qui entourent le personnel pour des raisons évidentes, bien sûr, mais on va se rendre compte au fil du temps que la CIA va un petit peu ambitionner sur son rôle, va un petit peu déborder les frontières. Il y a des présidents qui vont utiliser la CIA aussi à des fins plus ou moins légitimes. Donc, à partir de ce moment-là, la CIA va se mettre à grossir, puis à prendre des décisions ou à poser des gestes qui vont lui être reprochés un peu plus tard. Et aujourd'hui, la CIA est un petit peu moins secrète en termes de budget parce qu'on a élargi le nombre de personnes ou le nombre de comités qui peuvent avoir accès à ces informations-là pour des soucis de reddition de comptes, justement. On a édicté plusieurs lois, plusieurs décrets présidentiels aussi qui limitent certaines actions de la CIA. Mais il y a eu évidemment des débordements. Et ce que la CIA permet, c'est d'offrir justement au président des informations très pointues, très techniques, très précises sur ce que les autres pays font. Puis ensuite, c'est au président de décider s'ils veulent contre-attaquer ou s'ils veulent se prémunir de ce que font les autres. C'est une espèce de... La politique étrangère, c'est un jeu d'échecs. Et là, la CIA, c'est comme si on avait un petit oiseau au-dessus du jeu qui pouvait surveiller un peu ce que faisaient les autres, puis nous rapporte toute cette information-là par la suite. Et toutes les raisons étaient bonnes pour limiter ce développement du communisme. On était dans le containment, on était dans l'endiguement du communisme. Alors, comment on fait pour stopper l'avancée soviétique? Ben, faut financer, entraîner, aider des mouvements anticommunistes qui vont éventuellement renverser les gouvernements pro-Moscou, par exemple. On va le faire au Chili, mais on va le faire en Iran, on va le faire un peu partout dans le monde. Et c'est encore difficile aujourd'hui de déterminer la part exacte de la responsabilité de la CIA, c'est-à-dire est-ce qu'elle s'est contentée, entre guillemets, là, de financer ou si elle a vraiment participé activement. Généralement, on est plus dans le financement, dans la déstabilisation, dans des petites activités sur le terrain qui visent à craquer un peu tout le monde, là, mais pas nécessairement les agents de la CIA. Ils vont pas eux-mêmes directement participer à des soulèvements ou des trucs comme ça généralement là. Mais on a vu pendant la baie des cochons dans les années 60 que c'est la CIA qui a entraîné les dissidents cubains pour renverser Fidel Castro. On a renversé Salvador Allende au Chili. On est allé en Iran comme je le disais aussi. Donc la CIA est très présente. La CIA aussi a participé à l'assassinat de Che Guevara en Bolivie aussi, de Patrice Lumumba au Congo. Donc la CIA était un instrument entre les mains du président. Et c'est dans les années 70 qu'on va le découvrir parce qu'il y a du travail journalistique d'enquête qui va se faire et qui va dire, ben, à un moment donné, la CIA, y a-tu quelqu'un qui a contrôle? Y a-tu quelqu'un qui check ce qu'elle fait parce que ça n'a pas de bon sens? Parce que la CIA va aussi surveiller des citoyens américains, ce qui est illégal. La CIA a pas de juridiction sur le territoire américain là pour surveiller des citoyens américains. Donc, tout ça va sortir. On va appeler ça le scandale des bijoux de famille de la CIA. Il y aura des enquêtes au Congrès. Il y aura une enquête présidentielle aussi. Et c'est là où on va imposer des limites. Notamment, on va dire à la CIA, vous n'avez pas le droit de tuer des dirigeants étrangers. Hein? Obligé de vous le dire. Alors, on va mettre des limites au travail de la CIA, on va renforcer les mesures de reddition de comptes.
Vous avez parlé de Cuba brièvement. Vous dites dans le livre que c'est comme un peu le premier échec, si on veut, de la puissance américaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? C'est quoi le débarquement de la baie des Cochons? Qu'est-ce qui est arrivé?
La baie des Cochons, évidemment, c'est l'administration Kennedy qui est nouvellement au pouvoir et qui, le président Kennedy, se fait présenter un plan par la CIA, encore une fois, pour renverser Fidel Castro. Fidel Castro est devenu l'obsession américaine à partir de 1959. On comprend en termes stratégiques et géopolitiques pourquoi l'île communiste est à 150 km des côtes. On sait que les Soviétiques sont très impliqués à Cuba. Fidel Castro se proclame communiste, son frère aussi, Che Guevara aussi, etc. Donc, les leaders de la révolution cubaine sont communistes. Et là, on s'inquiète de cet effet domino, n'est-ce pas? Parce qu'on dit toujours, si un pays qui tombe sous la juridiction des communistes, ben, ses voisins, éventuellement, vont finir aussi. Alors, on veut stopper ça. Et Castro devient la bête noire, l'obsession américaine. On va tenter de l'assassiner à différentes reprises par toutes sortes de stratagèmes un peu weird. Là, on va essayer d'empoisonner sa barbe ou d'empoisonner sa crème glacée préférée qu'il va chercher à tous les jours à tel endroit. Donc, on va essayer d'embaucher ses maîtresses pour essayer de... Bon, on essaie tout pour l'assassiner. Il est increvable, ce Fidel Castro. Alors, ça fonctionne pas. Et là, on se dit, bon, ben parfait. On va élaborer un plan pour le renverser. Et la CIA orchestre tout ça avec il y a beaucoup de dissidents cubains en Floride notamment, parce que ceux qui sont là, ce sont ceux qui ont quitté l'île quand Castro est arrivé au pouvoir, donc des gens essentiellement de la bourgeoisie cubaine, des grands propriétaires terriens, et qui, eux aussi, souhaitent renverser Castro pour retourner à Cuba. Et la CIA va travailler avec ces gens-là, va les entraîner au Venezuela notamment, va leur fournir de l'armement, etc. Puis on a un plan pour aller envahir Cuba par le biais de ces gens-là. Mais le plan initial qu'on a élaboré sous l'administration Eisenhower, c'est que cette invasion-là soit suivi par des bombardements aériens américains, qu'il y ait une flotte américaine aussi qui encercle l'île pour empêcher toute attaque cubaine, etc. Et là, Kennedy regarde ça et il dit, moi, je suis pas sûr, là. Moi, je pense pas qu'on peut faire ça. Ils ont pas attaqué Cuba, là. On peut pas envahir Cuba. De quoi on va avoir l'air d'envahir Cuba qui nous a rien fait? Alors là, ce que Kennedy va faire, évidemment, il se laisse un peu influencer par les dirigeants de la CIA parce qu'ils sont là depuis très longtemps. C'était les gens d'Eisenhower. Il les a gardés au pouvoir quand il est arrivé à la Maison-Blanche, Kennedy. Puis Kennedy est plutôt jeune, il est un peu influençable, il sait pas trop. Alors, il se fie un peu à la CIA, il se fie aux militaires qui sont beaucoup intéressés par ce plan-là, mais il dit, OK, pour l'invasion, là, il est un peu trop tard pour désentraîner les dissidents, mettons, c'est pas possible. Mais on n'enverra pas d'avions puis de bateaux, là, parce que là, il ne faut pas que ça sache qu'on est derrière ça, parce qu'on va se faire critiquer sur la scène internationale. Et c'est un peu ça qui explique pourquoi ça n'a pas marché, parce que tu envoies des milliers de civils moyennement entraînés, alors que Castro était au courant du débarquement par ailleurs. Il attendait les gens, pas juste avec une brique et un fanal. Là. Il y avait une couple de guns aussi en même temps. Donc, ce débarquement-là, effectivement, n'a pas pu réussir parce qu'on n'avait pas tout mis les moyens nécessaires pour réussir. Et on n'a pas tout mis parce qu'on avait raison de ne pas le faire, parce que c'était illégal et illégitime. Mais c'est ça qui explique ce demi-succès. Et en plus, on avait un paquet d'informations biaisées parce que la CIA voulait absolument... Il n'y a pas juste nous, là, des fois, qui avions un biais là, parce qu'on veut absolument confirmer notre hypothèse. Les gens de la CIA aussi. Et ils disaient, non, mais les Cubains, attention, là, ils vont être tellement contents de nous voir arriver. Ça, c'est le syndrome américain. Là. Toujours contents de voir les Américains arriver, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Alors, on s'était dit, aussitôt que les Cubains vont nous voir arriver, ils vont se rebeller contre Castro, etc., ce qui n'était pas du tout le cas. Castro était hyper populaire dans les années 60 à Cuba. On n'avait pas prévu les conditions météorologique, on n'avait pas prévu des décalages horaires aussi entre les bases d'où les avions décollaient puis Cuba. On avait un paquet d'informations un peu tout croche qui a fait en sorte que ça ne pouvait pas fonctionner. Puis Kennedy, à la dernière minute, c'est ça, a backé un peu, a dit non, mais attention, là, on ne peut pas faire ça. Et là, il y avait déjà des avions décollés, on a essayé de les camoufler un peu pour que ça ne paraisse pas que ce soit des avions américains. En tout cas, tout ça a été très bâclé d'une certaine façon parce qu'on a reculé un peu sur les méthodes. Je parle longuement là, pour expliquer quelque chose, mais quand on parle de Cuba, là, je suis toujours très intéressée à parler de Cuba.
Moi, en fait, j'ai remarqué dans le livre que vous mentionnez justement aussi que l'opération avait un taux de succès qui était estimé à 30 %.
Ouais.
Fait qu'avec tout ce qu'on sait, là, je me demande est-ce que c'était réaliste d'affirmer que c'était 30 % ou si on aurait dû revoir à la baisse.
Mais on ne l'a pas dit à Kennedy, ce 30 %-là, bien évidemment. Ouais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va tirer des leçons, il va apprendre de ses erreurs quand il y aura la crise des missiles quelques années plus tard. Ben, il ne fera pas confiance à la CIA puis il ne fera pas confiance aux chefs des militaires non plus parce qu'il va dire, moi, si je vous écoutais, on aurait tous été tués par l'arme nucléaire un moment donné parce que vous êtes toujours dans les dans les idées extrêmes, puis vous tenez pas compte de la réalité du terrain puis la réalité politique, là. Alors, il va tirer des conséquences de ça, il va exiger des preuves, il va parler à des gens à qui il a confiance, il va écarter ceux à qui il fait pas confiance. Mm-hmm. Donc, il va au moins tirer leçon de cette erreur de la baie des cochons.
Puis, pour faire un lien un peu avec la crise des missiles auquel vous venez juste de parler, est-ce qu'on pourrait dire que, en fait, l'invasion ratée de la baie des cochons a précipité un peu les rapprochements entre l'URSS et Cuba?
Bien sûr. Bien sûr, c'est exactement ça qui est arrivé, puis c'est exactement ça que les Américains voulaient éviter. Donc, il y a un petit manque de jugement sur cette question-là aussi. Et c'est là où on revient à ce que Mélina disait tantôt sur l'arrogance des Américains. On est tellement sûr qu'on va être accueillis en héros, en sauveur, que tous les gens de la planète souhaitent être Américains, qu'on oublie un peu les considérations réelles. Fidel Castro a amélioré considérablement la condition de vie des Cubains. On peut critiquer le régime là par la suite, là, il n'y a pas de souci, mais les premières années, les conditions de vie des Cubains ont été vraiment amélioré. Là. C'est un pays qui est sorti de la pauvreté, qui est sorti de la misère. Les gens se sont enrichis, ont été en meilleure santé, ont été éduqués, etc. Puis là, on pense que les Américains vont être accueillis en héros, là, soudainement, parce qu'eux n'aiment pas Cuba, n'aiment pas Castro, n'aiment pas le communisme, mais c'est pas ça qui se passe. Donc, ce que ça a pour effet, effectivement, c'est Castro va se dire, bien, visiblement, les États-Unis nous posent une menace existentielle. La seule puissance qui peut nous protéger, c'est l'URSS. Donc, ça précipite le rapprochement et ça mène à la crise des missiles pas longtemps après, parce que les Soviétiques aussi sont un peu cocky, il n'y a pas juste les Américains. Ils décident eux aussi de provoquer un peu les États-Unis et ça va donner lieu à la crise des missiles.
Puis justement, avec ce rapprochement-là, on voit évidemment le débarquement de missiles qui est découvert par les Américains via, si je me souviens bien, c'est des images aériennes là, qu'on voit. Puis on est rentré dans une période, en fait, que tout aurait pu chambouler puis qu'on aurait pu ne pas se retrouver ici en train de discuter un 10 jours où est-ce que des décisions importantes sont prises ou des inactions, en fait, aussi qui ne sont pas permises. Comment se déroule, en fait, le 10 jours de gestion de crise?
Bien, on est 10 jours, on parle des fois de 13 jours parce que ça dépend quand on commence à calculer, ce qu'on calcule quand les photos sont prises ou quand on commence à s'asseoir en comité pour réfléchir. Mais effectivement, c'est une dizaine de jours, on va le dire comme ça, une dizaine de jours où l'humanité n'a jamais été aussi proche de la guerre nucléaire, essentiellement parce qu'il n'y a pas de communication directe entre les puissances ennemies, donc il n'y a pas de lien de communication directe entre Khrushchev en URSS et Kennedy aux États-Unis. Il faut passer par les ambassades, il faut passer par les diplomates, il faut passer par des canaux non officiels comme des journalistes, par exemple, des trucs comme ça. Ça prend un temps fou à se rendre, à revenir. Et il y a plein de choses qui se passent en attendant. Cette crise-là, c'est aussi le clash entre les civils et les militaires au sein de l'administration Kennedy. Les militaires qui disent la seule façon de donner une leçon à l'URSS, c'est en utilisant la force. Faut bombarder Cuba, faut envahir Cuba. Et vous avez les Kennedy, John Kennedy, parce que pour une raison qui m'échappe, Jack, c'est le diminutif de John. Je sais pas trop comment ça marche, mais voilà.
Comme Bob et Robert, là.
Mais Bob et Robert, à la limite, je comprends. Ouais. Mais Jack pour John, en tout cas, peu importe. Ça, c'est un autre dossier. Vous me réinviterez pour parler des diminutifs bizarres des États-Unis, mais... Mais donc, John Kennedy et son frère Bob, justement, Robert Kennedy, qui, eux, veulent éviter l'escalade à tout prix, qui veulent éviter cette guerre nucléaire-là. Alors, comment on réagit? Parce qu'il faut réagir comme grande puissance quand on découvre que notre ennemi juré pose des bombes, des missiles à 150 km de nos côtes. On va apprendre seulement dans les années 80 qu'il y avait des ogives nucléaires qui étaient prêtes à fonctionner aussi. Heureusement qu'on ne l'a pas appris sur le moment parce que je suis pas sûre que les décisions auraient été les mêmes. Mais là, vous avez les militaires qui disent la seule façon de sortir de ça puis de montrer aux Russes qu'il faut qu'ils arrêtent de niaiser, c'est de bombarder ces missiles-là. Et là, Kennedy dit, mais si, mettons qu'on les... Êtes-vous capable de m'assurer qu'on va les avoir tous, qu'on va les abattre tous, on va les détruire tous à 100%? Non, on peut pas vous assurer ça. Mais qu'est-ce que vous pensez que les Russes vont faire s'il leur en reste un? Ils vont nous l'envoyer en pleine face avant de le perdre. Là. Et là, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire, nous? Parce qu'on ne pourra pas laisser faire ça. Et là, il essaie d'expliquer aux militaires cette idée d'escalade qu'il veut éviter à tout prix. Mais les militaires voient ça comme de la faiblesse de Kennedy à l'égard des Soviétiques. Donc, on est pendant 13 jours dans une situation d'escalade où ni Khrushchev, en fait... Parce que Khrushchev, il a gamblé un peu là-dessus. Là, puis s'il dit, ah ben là, ils réagissent pas trop à Berlin, ils réagissent pas trop à telle autre partie du monde. Alors, on prend une chance, voir ce qui se passe si on va à Cuba. Et là, finalement, ça se découvre. Et là, chacun veut éviter la guerre, mais chacun, personne ne veut perdre la face, là. Alors, comment on fait? Parce que c'est une game de coq aussi, cette affaire-là, la politique étrangère. Et là, comment on fait pour perdre la face? Et au moins, Kennedy a eu cette intelligence-là d'offrir des portes de sortie à un moment donné à Khrushchev. Et Khrushchev a eu l'intelligence de les saisir. Et c'est comme ça qu'on va résoudre la crise, en y allant vraiment par petite étape, par petit pas. À chaque petite escalade qu'on faisait, c'était d'offrir une porte de sortie à l'adversaire. Puis à un moment donné, on les saisit. Puis par des secrets, parce que la crise va se résoudre quand Kennedy va promettre de démanteler les missiles Jupiter en Turquie si Khrushchev enlève ses missiles de Cuba. Mais ça, c'est un deal qui est secret aussi, parce que les Américains veulent pas avoir eu l'air de céder aux menaces soviétiques, et Khrushchev l'accepte. Khrushchev va payer de sa carrière, en fait, la crise des missiles, parce qu'il va être vu comme étant le perdant de cette crise-là en URSS. Et Kennedy va ressortir avec une aura là, assez spectaculaire. Mais cette crise-là a pu être résolue parce que maintenant, la raison humaine est embarquée. Là. Et on a ensuite établi des moyens de communication plus directs entre les dirigeants pour s'assurer que de telles situations ne se produisent plus.
Mm-hmm. Puis dans les années qui vont suivre, on va aussi voir un nouveau paradigme qui s'installe avec plus de réalisme, si on veut, ou notamment Henry Kissinger, qui va être un personnage important, où en fait, on va parler de la détente. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est la détente?
La détente, c'est cette idée que personne ne gagne à être en compétition avec l'autre grande puissance. La seule façon de s'en sortir, la seule façon de mettre un terme à cette rivalité-là, c'est par le biais de la collaboration et de la coopération. Alors, comment on fait? D'abord, il faut réduire l'arsenal nucléaire, parce que ça a plus de sens à un moment donné. Ça en prend juste une pour détruire un pays. Il n'a pas besoin d'en avoir 3000. Donc, il faut s'entendre là-dessus. Et il faut mettre l'accent sur nos points de convergence. Donc, l'économie. Comment économiquement on peut se rapprocher? Comment on peut travailler ensemble? Comment politiquement on peut aussi chacun s'octroyer une zone d'influence dans laquelle l'autre se mêlera pas? Donc, on va un peu se partager ce territoire-là idéologique d'une certaine manière. Et on va signer des ententes de désarmement ou en tout cas de fin d'escalade d'armement, toujours. Nixon va faire ça, notamment avec Salt, avec le traité ABM. Puis ça va se poursuivre ensuite là, jusqu'à Reagan, là, sans problème. Puis on va aussi essayer davantage d'intégrer l'URSS dans des règlements de conflit ou dans des règlements diplomatiques, où on va essayer de pas s'interposer dans les crises de l'autre. Alors, il y a une espèce de modus vivendi là, qui se fait, où on va essayer de calmer le jeu, de mettre l'accent sur nos complémentarités, puis de se laisser tranquille dans nos zones réciproques.
Mais il y a quand même eu un endroit où cette détente-là n'a pas marché, qui est l'Indochine, le Cambodge, le Vietnam, le Laos, où vraiment les États-Unis se sont embourbés.
Et c'est dommage parce que souvent les catastrophes historiques, c'est juste une série de malentendus. C'est souvent que ça. On comprend pas bien ce qui se passe, fait qu'on réagit mal. Le Vietnam, c'est exactement ça. Les Vietnamiens se sortent de plusieurs années de guerre avec les Français, une guerre de colonisation. Alors, quand ils viennent à bout de chasser les Français, ils sont contents. Puis là, évidemment, il y a cette lutte interne aussi entre le Nord communiste et le Sud qui ne l'est pas. Et là, ben quand les Français quittent, ils se disent, on va régler ça maintenant entre nous, maintenant que les colonisateurs sont partis. Mais les États-Unis, eux, n'ont pas vu cette guerre civile-là. Ce qu'ils ont vu, c'est vraiment cette théorie des dominos dont on parlait tantôt. Il faut empêcher le Vietnam de devenir communiste parce qu'à défaut de quoi, tous ses voisins vont le devenir aussi. Et là, les États-Unis vont entrer dans cette guerre de libération à petits pas au début, mais très rapidement, encore une fois, on va escalader parce que là, il y a une question d'égo présidentiel aussi qui entre en ligne de compte. Vous avez le président Johnson qui hérite de ce conflit-là de Kennedy. Il y a juste à peu près une dizaine de milliers de conseillers militaires, en guillemets, à ce moment-là. Donc, pas des combattants, mais des gens qui vont essayer d'entraîner l'armée sud-vietnamienne pour lutter contre le Nord communiste. Et c'est Johnson qui va ouvrir cette escalade-là, envoyer des troupes américaines sur le terrain, puis faire de cette guerre-là un fiasco. Parce que Johnson, d'abord, dit « Je veux pas être le premier président américain à perdre une guerre. » Alors, il faut la gagner à tout prix. C'est pas vrai que c'est moi qui vais être la face de cet échec-là. Puis ensuite, Johnson a un énorme programme de réforme sociale à mettre en place, la Great Society, où on veut éliminer la discrimination raciale, on veut consolider le droit de vote des Afro-Américains, on veut permettre une certaine égalité des sexes, on veut éliminer la pauvreté, etc. On veut, on a créé certains éléments liés à de l'assurance santé. En tout cas, on a tout un vaste programme de réforme. Et Johnson, qui est démocrate, a absolument besoin de l'appui des Républicains pour adopter ce projet-là. Et les Républicains, eux, veulent une victoire militaire au Vietnam. Donc, Johnson est un peu coincé entre ça en disant, moi, ce qui m'importe le plus, c'est la Great Society. Ben, s'il faut que j'aille en guerre au Vietnam pour ça, je vais y aller. En même temps, Johnson se fie un peu aussi à ses conseillers militaires qui disent, ah, si on avait juste 10 000 soldats de plus, on gagnerait. C'est sûr qu'on gagnerait. Puis il se fait dire ça pendant longtemps. Il se fait dire pendant longtemps qu'il y a des succès militaires sur le terrain jusqu'à temps que, à un moment donné, à force de reportages télévisés, à force de soldats qui reviennent, à force de conseillers politiques, ils disent finalement, je suis plus sûr que militairement ça se gagne. On calcule, on fait des chiffres, on a des statistiques, puis on n'avance pas bien, bien. À force de tout ça, là, il se rend compte que c'est pas possible de gagner cette guerre-là. Il va renoncer à se présenter en 68 pour un deuxième mandat présidentiel parce qu'il se dit, il faut que mes énergies soient consacrées à régler le Vietnam. En même temps, il n'y a pas le taux de popularité nécessairement non plus pour gagner cette élection-là, mais il y en a qui se seraient quand même présentés. On nommera pas de nom, là, mais on connaît des gens qui se seraient quand même présentés. Il y a au moins eu ce courage-là de ne pas se présenter. Mais c'est un mauvais calcul, une mauvaise compréhension de la réalité du terrain. Encore une fois, cette idée que les Américains vont être perçus en héros parce qu'on libère les gens du communisme, alors que pour les Vietnamiens, ça concernait personne qu'eux-mêmes. Et à ce moment-là, c'est pas tant contre l'URSS, la guerre est pas tant interposée contre l'URSS, c'est plus la Chine qui est là. La Chine qui essaie aussi de devenir une puissance mondiale à ce moment-là, qui s'est sortie de la domination russe aussi, qui a son propre communisme, qui développe un peu ses propres affaires, qui a des volontés de puissance, qui va financer le Nord, etc. Donc, c'est plus une guerre interposée. Vous avez des militaires sur le terrain qui disent, ben, la seule façon de gagner cette guerre-là, c'est faut que la Chine arrête de financer le Nord. Comment on fait pour forcer la Chine à arrêter de financer le Nord? On envoie une bombe atomique sur le Nord. Non, ça va pas être possible. Alors, donc, il y a encore une fois un clash entre civils et militaires et tout ça devient un fiasco, encore une fois, là, qui montre les limites de cette puissance militaire américaine parce que c'est pas moi qui le dis, les Américains livrent toujours bataille comme ils l'ont fait dans la dernière guerre, mais plus exactement la réalité du terrain. On n'était plus pendant le contexte de la Deuxième Guerre mondiale. On pouvait pas gagner avec des moyens conventionnels. On était dans une guerre de guérilla. On était dans la jungle. Les soldats américains étaient complètement dépassés par ça.
On se rend compte aussi que les médias puis l'opinion publique vont jouer vraiment un rôle important parce que justement, on réalise que il y a une dichotomie entre qu'est-ce qui est réellement vécu sur le terrain puis qu'est-ce qu'on est rapporté dans les médias. Puis moi, je me demandais aussi, c'est quand que ce changement-là s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un moment charnier, justement?
Ben, c'est surtout après l'offensive du Tet en janvier 68 que ça va se produire parce que c'est là où on réalise que les gains terrains qu'on nous annonçait, c'était pas vraiment concrétisé ou en tout cas ça tenait à pas grand-chose parce que l'offensive du Tet va venir complètement saper le peu de morale qui reste là au sein des troupes américaines puis auprès des soldats américains. C'est là que ça change. C'est là que les journalistes vont commencer à dire mais là, peut-être qu'on se fait raconter des blagues un peu par la Maison-Blanche. Peut-être qu'il faudrait aller sur le terrain. Peut-être qu'il faudrait commencer à croire ce que nous disent les gens sur le terrain aussi. Puis rappelez-vous, là, c'est pas instantané, les reportages à l'époque, là. Le temps qu'un journaliste américain se rende au Vietnam pour commencer, c'est déjà toute une histoire, qui s'installe là, qui fasse des reportages, qui nous les envoie, qu'on les diffuse. Ça prend des semaines, souvent, là. Alors, on n'est pas dans le direct, là. Et souvent, on avait des reportages, puis les gens qui étaient responsables de l'information disaient, mais ça n'a pas de bon sens. Johnson vient de nous dire qu'on avait gagné du terrain. Fait qu'il se trompe, là. Ça a pris du temps avant qu'on croie les gens de terrain. Puis, à un moment donné, effectivement, à force d'avoir des manifestants dans les rues aussi, à force de voir de la critique, à force de voir des reportages, mais ce qui a surtout était un moment charnière, c'est le fait que les hauts dirigeants eux-mêmes commencent à douter publiquement d'une victoire militaire. On s'est dit, il n'y aura pas de victoire militaire possible dans ce conflit-là. Et Johnson le sait depuis très longtemps. Il était vice-président de Kennedy puis il disait, cette guerre-là ne peut pas être gagnée militairement. Il le sait. Donc, il continue à croire ses chefs militaires pour toutes les raisons qu'on a évoquées tantôt. Mais c'est vraiment après l'offensive du Tet que là, la population commence à dire, peut-être qu'on se fait un peu remplir avec ça. Peut-être qu'il faudrait commencer à écouter ceux qui disent que ça va pas bien. Et c'est là où la situation va commencer à changer aussi.
Donc là, ensuite, avec les élections de 68, on voit la victoire de Richard Nixon,
ouais.
Qui va faire, disons, un mandat et demi, si on veut, avec,
avec, oui, le, avec Watergate. Le Watergate.
Comment est-ce que Nixon effectue une sortie du Vietnam, en fait, qui va se concrétiser en 75?
Ben, il y a deux. Nixon a une stratégie, une double stratégie. D'abord, ce qui est important à dire préalablement concernant Nixon, c'est que si la guerre du Vietnam s'est étalée aussi longuement, c'est en partie à cause de Nixon, parce que pendant la campagne de 1968, il a contacté le gouvernement du Sud-Vietnam par le biais d'une de ses amies qui est donatrice du Parti républicain, Anna Chenault, qui est proche du pouvoir sud-vietnamien, pour dire aux Sud-Vietnamiens, ne vous assoyez pas à la table de négociation. Attendez que je sois élu, je vais vous offrir de bien meilleures conditions. Ça, c'est tout à fait aberrant comme comportement. Johnson l'a appris. Il a appelé Nixon en disant, ouais, j'ai entendu, ben non, c'est pas vrai, voyons donc, moi je suis avec toi, puis une victoire de l'administration au Vietnam, c'est une victoire pour tous les Américains, comme Nixon peut le faire. Et donc, Nixon est en partie responsable de la durée de ce conflit-là. Et Johnson a choisi de ne pas dénoncer Nixon parce qu'il voulait pas avoir l'air de court-circuiter l'élection, parce qu'on est à quelques semaines de l'élection. Il veut pas avoir l'air d'être un mauvais joueur parce que son parti fait pas bien dans les sondages. Il veut pas ternir l'image présidentielle non plus tout d'un coup que c'est Nixon qui gagne. Enfin bref, il est très bon joueur. Avoir su, je suis sûr qu'il aurait peut-être dénoncé, avoir su tout ce qui s'en venait ensuite par rapport à Nixon. Mais tout ça pour dire que Nixon arrive au pouvoir en disant, moi, j'ai une stratégie pour le Vietnam. Une stratégie en deux temps. La paix dans l'honneur et la vietnamisation. Comment on fait ça? Il faut redonner ce conflit-là aux Vietnamiens. Ça leur appartient à eux. Et donc, pour nous désengager, il faut qu'eux soient capables de prendre la relève. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les former, on va les entraîner, on va faire de ces Sud-Vietnamiens-là des soldats à l'américaine pour qu'ils soient capables eux-mêmes de continuer le combat. Et la paix dans l'honneur, c'est de nous retirer progressivement tout en essayant de négocier une sortie honorable pour tout le monde. Ce ne sera pas tout à fait une sortie honorable. D'abord, Nixon ne va pas sortir honorablement de la présidence lui-même, pour commencer, donc ça part pas bien. Et ensuite, ce sera sous Ford là, que la fin de la guerre va se prononcer avec les images un peu chaotiques de Saigon, où vous voyez les gens qui quittent en catastrophe, puis alors que les chars du Nord-Vietnam arrivent dans la ville. Là. Donc, on n'a eu ni paix dans l'honneur, ni vietnamisation en ce qui concerne le Vietnam.
Donc, là, on a vraiment, justement, l'image puis l'opinion publique qui commence vraiment à devenir plus décisive dans la manière dont on gère la politique.
Oui.
Puis ça m'amène, en fait, à Ronald Reagan.
Oui.
Qui est un président qui a vraiment beaucoup axé sur l'image puis sur, le disons, la politique spectacle. Et ça s'est beaucoup matérialisé dans son projet Star Wars, en grosses guillemets.
Oui.
Qu'est-ce que c'est le projet Star Wars?
Projet Star Wars,
c'est pas un film, là, d'ailleurs.
Ben, c'est parce qu'on l'a appelé comme ça parce que c'est sorti en même temps que le film. Donc, ce sont les détracteurs du projet qui ont surnommé ce projet-là. C'est le projet Star Wars pour se moquer un peu parce que c'était
80.
Futuriste, là.
C'est
les années 80, il faut le dire aujourd'hui. Ouais. Bon. Mais à l'époque, ça faisait très futuriste. Et le nom est resté. Mais, d'ailleurs, dans le livre, j'ai mis un extrait d'un mémo trouvé dans les archives où les conseillers de Reagan disent qu'il faudrait que ça s'appelle autrement parce que là, franchement, on se fait défendre par nos ennemis. Voici comment on pourrait appeler ça puis spinner ça dans les médias, puis ça marche pas pantoute. Mais tout ça pour dire que le projet Star Wars, c'est un projet de bouclier antimissile extrêmement technologique, extrêmement sophistiqué.
Extrêmement coûteux aussi.
Extrêmement coûteux, qui nécessitait de déployer des missiles un peu partout en Amérique du Nord, notamment au Canada, aux États-Unis, en Amérique centrale, pour pouvoir... Ce sont des missiles qui visent à intercepter des missiles. Donc, il y avait des lasers, il y avait de la physique quantique là-dedans, il y avait tout un paquet de choses. Reagan s'est fait influencer par un physicien un peu controversé là qui lui a dit que c'était absolument nécessaire. Et Reagan disait la seule façon d'éviter la guerre, c'est d'empêcher les missiles d'atteindre leur cible. Et il croyait beaucoup à ce projet-là. C'était son projet. Reagan était très peu impliqué en politique étrangère, mais ce projet-là, là, ça lui tenait à cœur. Le problème, c'est que techniquement, c'était impossible à réaliser à l'époque. Encore aujourd'hui, ça nécessitait des technologies qui étaient même pas imaginables à l'époque. Et ça a coûté des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars pour rien, parce que techniquement, ça fonctionnait pas. C'est une idée qui va mourir lentement. D'abord, ça va mourir dans un premier temps, si je puis dire, parce que l'URSS n'est pas resté les bras croisés en disant, mais c'est parce que si vous avez un bouclier antimissile, si vous avez des missiles pour intercepter des missiles, ces missiles-là sont capables d'atteindre des cibles ailleurs. Ils ne servent pas juste à intercepter des missiles. Fait que c'est offensif à notre égard. C'est une menace pour nous. Alors, nous aussi, on va essayer de construire ça. On va essayer d'envoyer des missiles dans l'espace pour essayer de contrer vos missiles qui comptent des missiles, etc. Fait que là, on était rendu dans une histoire un peu fantasmagorique. Ça a été un échec du côté soviétique aussi, par ailleurs, là.
Mais justement, cet échec soviétique-là s'inscrit dans une nouvelle dynamique. On parlait tantôt de la détente puis de la coexistence entre l'URSS puis les États-Unis. Mais là, tout d'un coup, avec cette initiative-là, puis aussi la volonté de Reagan, là, qui se voit un peu en croisade contre le communisme puis l'Empire du mal, ben là, tout d'un coup, le projet Star Wars participe un peu à une mise en échec progressive de l'URSS.
Oui. Ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on ne peut pas les vaincre militairement, on va les vaincre économiquement. L'URSS, on le sait, a de la difficulté économique, est en difficulté économique, a de la difficulté à nourrir sa population. Et si on a des projets d'armement, de boucliers antimissiles qui coûtent des fortunes, l'URSS va se ruiner à vouloir nous empêcher de les faire ou essayer de faire pareil. Et à ce moment-là, avec toutes sortes de manipulations concernant le pétrole par ailleurs, pour essayer d'affaiblir encore une fois économiquement et en termes de ressources l'URSS, ben ça va contribuer à l'effondrement de l'Union soviétique d'une certaine façon. Fait que, si on veut, le projet Star Wars était un succès d'une certaine façon. Si l'objectif était d'affaiblir l'URSS, ça a bien fonctionné, mais c'est pas le seul facteur, bien évidemment, mais c'est un échec technique. Mais effectivement, ça va contribuer à saigner l'URSS économiquement parce qu'on va se ruiner dans des armements pour contrer ce genre de projet-là. Tout à fait.
Mm-hmm. Puis est-ce que tu as parlé de l'opinion publique puis de l'importance de ça, surtout dans la guerre du Vietnam? Est-ce que l'opinion publique, un public est en accord avec un projet d'une telle envergure, là, où c'était assez secret à l'époque, là?
Ben non, le président a fait une conférence, une allocution télévisée pour annoncer le projet. Donc, c'était pas du tout secret. Ben, évidemment, les modalités techniques, oui, mais le projet lui-même n'était pas secret. Les Américains étaient toujours... Les Américains aimaient beaucoup Reagan, par ailleurs. Donc, ça avait toujours l'air d'être une bonne idée quand ils présentaient les choses. Et je dirais qu'il y avait deux catégories de personnes. Il y avait, je vous dirais, des citoyens ordinaires qui disaient « Ah, ben ça a l'air d'être une bonne idée » parce que c'était difficile d'imaginer techniquement à quoi ça pouvait ressembler. Et on pouvait pas nécessairement voir comment c'était problématique, mais on disait « Oui, c'est une bonne idée. N'importe quoi pour protéger les Américains. » Il faut se rappeler que dans les années 80, il y a une peur réelle, presque physique, de la menace communiste et de la guerre nucléaire. Là, on nous martèle ça depuis toujours. Puis on a peur de ça. Alors, on dit faut se protéger. Ça a l'air d'être une bonne idée. Puis vous aviez une autre partie de la population un peu plus avisée, je dirais, là, qui suivait l'actualité d'un peu plus près, qui était peut-être un peu plus au courant des tenants et aboutissants de la guerre froide, qui disait, ben, à part une course à l'armement, je vois pas très bien à quoi ça va servir, cette affaire-là. Mais en général, pour les Américains, c'est une bonne idée jusqu'à temps qu'on se rende compte que ça fonctionne pas ou que ça coûte trop cher ou que c'est utopiste. Puis c'est ce qui va se passer aussi avec le bouclier antimissile. Quand on va dire aux gens, ça fait 100 milliards de dollars qu'on investit là-dedans, mais ça marche pas, ben là, les gens vont dire, OK, ben, on peut passer à autre chose.
Mais justement, on est dans cette période-là où on cherchait un équilibre de la terreur. Vous parlez justement encore aujourd'hui du bouclier antimissile. On se rend compte que ce rêve-là n'est jamais disparu, en fait, d'avoir...
une protection
parfaite.
Oui, une
protection,
là,
voilà.
Mais c'est ça, mais on est à la recherche de la protection parfaite parce que quand on est une grande puissance, forcément, on est vulnérable. Demandez à la Grande-Bretagne, à l'époque de son empire, demandez à la France quand elle était toute puissante, demandez à n'importe quelle grande puissance. Elle se sent toujours menacée, évidemment, et on veut protéger notre territoire. Les États-Unis sont chanceux, ils n'ont pas d'ennemis géographiques. Le Canada et le Mexique, là, pas très énervant comme voisins. On est assez tranquille.
C'est dans la poche, comme on dit.
Pardon?
C'est assez dans la poche.
On peut être pris pour acquis, là. Il n'y a pas trop de danger. Alors, la menace, forcément, vient d'ailleurs. Et il faut se protéger par tous les moyens. Comme l'ennemi est loin, les moyens déployés pour le contrer doivent être à la hauteur de cette distance-là, d'une certaine façon. Mais oui, il y a toujours cette idée, il y a toujours un ennemi et il faut se protéger. Parce que si on n'a pas d'ennemi, notre puissance n'a pas lieu d'être. Alors, pour justifier notre puissance, ça nous prend un ennemi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a une période de flottement après la guerre froide et avant le 11 septembre. Parce que là, soudainement, on a comme... Mais c'est qui notre ennemi? Il est où? Qu'est-ce qu'on fait avec nos 700 milliards de dollars par année dans la défense? Qu'est-ce qu'on fait avec tout notre armement, avec nos soldats, avec cette puissance-là? Ben là, on essaie de faire des interventions humanitaires, puis ça se déroule pas super bien. Puis là, arrive le 11 septembre, c'est presque une bénédiction, je le dis encore une fois, entre guillemets, puis avec un peu de sarcasme, là, dans la mesure où là, soudainement, on peut focaliser sur un ennemi, puis déployer les moyens pour l'abattre. Le problème, c'est que le terrorisme, vous savez, c'est pas un État. Alors, ça, c'est d'autres difficultés.
Ouais.
Mais les États-Unis, comme toute grande puissance, ont besoin d'un ennemi pour justifier leur propre existence, leur propre puissance.
J'aimerais parler de 90 quand même, parce que c'est vraiment une période spéciale, c'est ça.
Oui.
L'URSS n'est plus là comme étant une menace existentielle. Mm-hmm. On n'a pas encore de façon proactive le terrorisme. Dans cette période-là, il y aurait quand même eu l'opportunité d'être, disons, une vraie police du monde. Si on veut, tu sais, il y a eu le conflit au Rwanda, il y a eu le conflit en Yougoslavie, il y a eu conflit en Somalie également. Les États-Unis, est-ce qu'ils ont cherché à quand même avoir une vision humanitaire à ce moment-là?
Bien sûr, c'était l'objectif même de l'administration Clinton, d'être cette puissance bienveillante, n'est-ce pas, d'être ce shérif du monde. Le problème, c'est que quand on a une armée à 700 milliards de dollars, quand on a un ennemi étatique comme l'URSS depuis 40 ans, 50 ans, ben là, vous avez une guerre civile en Somalie. Vos moyens sont pas adaptés à la situation. Là. Vous êtes pas capable, vos soldats sont pas entraînés pour faire de l'humanitaire. Ça a été le cas d'ailleurs pour toutes les autres armées occidentales qui ont tenté d'intervenir. C'est que pour être un casque bleu ou pour être un agent de la paix, là, ça prend une formation particulière. Et le problème des États-Unis, comme de toutes les démocraties, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire que l'opinion publique veut bien qu'on envoie des soldats mourir pour quand il y a une menace existentielle, comme vous dites, quand on a peur du nucléaire, mais mourir parce qu'en Somalie, il y a du monde qui crève de faim, c'est pas sûr. Là, la notion d'intérêt là, pour l'opinion publique, ça devient très, très flou. Et les Américains aiment moins ça. Et pour comprendre le Rwanda, il faut comprendre la Somalie. En Somalie, on intervient pour des raisons humanitaires, pour permettre le convoi de l'aide humanitaire à des populations qui sont affamées par des gangs rivales qui souhaitent contrôler le pays à l'époque. C'est extrêmement compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails, mais les États-Unis décident de mener des forces d'intervention là. Il y a des hélicoptères américains qui se font abattre, il y a des soldats américains qui se font capturer, ils sont torturés, ils sont tués, ils sont brûlés vifs, scalpés, tout ce que vous pouvez imaginer, et sont filmés en train d'être torturés. Et là, les Américains, ils sont 18, là. Pas 300 000 ou 50 000 comme au Vietnam, là. Ils sont 18. Et là, les Américains disent, non, là, c'est pas vrai que nos soldats vont mourir, vont être torturés comme ça pour un conflit qu'on comprend pas puis qui nous touche pas pantoute, qui nous concerne pas, dans lequel on n'a pas d'intérêt, là. Et là, le président américain va comprendre un peu les limites de cette opération humanitaire, de cette action humanitaire qu'il souhaite faire, et il va élaborer une règle en disant, dorénavant, les États-Unis n'interviendront plus si leurs intérêts ne sont pas directement menacés. Et c'est pour ça qu'on va pas au Rwanda, notamment. Parce qu'on dit, on veut pas être pris comme en Somalie, dans un conflit qu'on connaît pas, qu'on comprend pas, puis se retrouver finalement avec nos soldats qui se font tuer, puis on comprend pas pourquoi. Donc, c'est pour ça qu'on n'intervient pas au Rwanda. Et Clinton va dire, d'ailleurs, c'est la pire erreur de ma présidence de ne pas être intervenu là, mais il faut comprendre le contexte. On a 2 ans en intervalle là, entre la Somalie et le Rwanda. Alors là, on comprend. Et là, arrive la Bosnie. Et là, il faut y aller d'abord. Mais ça va prendre du temps, ça va être compliqué, parce que là, on a l'impression que c'est la réputation des États-Unis qui est en jeu comme puissance internationale, comme force militaire. Alors là, pour toutes sortes de raisons, dont celle-là, on va intervenir en Bosnie avec un succès mitigé. Mais ce moment unipolaire-là est un peu étrange, parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre puissance, puis ce qu'on voudrait faire, on n'est pas capable de le faire.
Ouais.
Puis, est-ce qu'on pourrait affirmer que ce moment unipolaire-là, en fait, amène le fait que, peu importe les actions prises par, en fait, l'administration américaine sur la scène internationale, va être critiquée
oui.
lorsqu'on intervient, mais on va aussi la critiquer lorsqu'elle n'intervient pas.
Exactement. C'est comme je dis toujours, là, mes étudiants sont habitués de m'entendre radoter ça, mais « damn if you do, damn if you don't », n'est-ce pas? Vous êtes critiqué que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas. C'est le propre des grandes puissances. Et ça s'explique notamment parce que les États-Unis sont toujours un peu en retard par rapport aux changements géopolitiques. Parce qu'ils ont toujours, comme je disais tantôt, ils sont toujours en train de livrer la dernière guerre. Là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on prend du temps à s'adapter aux réalités, notre réponse n'est pas appropriée. Alors, on est toujours un peu en retard sur la game, mais on se dit, c'est pas grave, on est super puissant. On a vu qu'en Afghanistan, ça servait à rien d'être super puissant. On a vu qu'au Vietnam, ça servait à rien d'être super puissant. On a vu qu'en Somalie, ça servait à rien d'être super puissant. En Syrie, ça sert à rien d'être super puissant. Donc, à un moment donné, il faut s'adapter autrement. Et les Américains sont très lents à s'adapter. C'est ce qui explique notamment qu'ils soient critiqués quand ils interviennent ou quand ils n'interviennent pas, parce que la réponse est rarement appropriée à la situation réelle.
Mais là, on va voir une période un peu de tranquillité qui va suivre. Mais justement, vous l'avez dit, le 11 septembre 2001, ramène l'interventionnisme américain à l'avant-scène. Comment ça s'opère, ça?
Ben, c'est justement cette idée d'une menace existentielle. Le 11 septembre, c'est un traumatisme pour beaucoup d'Américains, pour beaucoup d'Occidentaux en général, parce que les pays occidentaux sont pas habitués d'être frappés sur leur sol. Les États-Unis, à part Pearl Harbor, qui était quand même assez loin du continent, n'avaient jamais été visés sur leur sol. C'est 3000 personnes qui meurent. C'est quand même spectaculaire. New York, c'est une ville que presque tous les Occidentaux on connaissent. Il y en a plein qui sont allés à New York. Les Québécois allaient à New York. C'était une ville qu'on avait l'impression de connaître. Ça a marqué beaucoup l'imaginaire. Puis comme je disais, les Occidentaux ne sont pas habitués de se faire frapper. Alors, le choc était d'autant plus grand. Puis là, à ce moment-là, on retrouve cet ennemi dont on a besoin d'une certaine façon. On redécouvre cette peur existentielle qu'on n'avait plus. Et là, on se dit, il faut se protéger. Et là, on va ressortir les mêmes vieilles idées que pendant les années 80. Le bouclier antimissile, l'augmentation du budget de l'armée, l'axe du mal au lieu de l'empire du mal. Et c'est qui l'axe du mal? L'Iran, la Corée du Nord puis l'Irak. Méchant axe, hein, disons-le tout de suite. Là. Et là, on va adapter ce concept de guerre préventive. On va attaquer un pays dont on pense que peut-être un moment donné, il va nous attaquer. Mm-hmm. Et là, toutes les justifications. Et on perd un peu le contrôle. Et il y en a qui disent que, bon, moi je ne suis pas tellement de l'école de. Les présidents américains sont mal intentionnés. Moi, je dis qu'ils sont mal conseillés. Ils sont pris dans leur dissonance cognitive, là. Puis ils sont coquilles, un peu, justement. Fait que quand on met tout ça ensemble, ça donne des mauvaises décisions, généralement. Et là, en même temps, il y avait une forte pression de l'opinion publique de « il faut pas laisser faire ça ». Et il y a aucune grande puissance qui n'aurait pas essayé de punir les attentats du 11 septembre. Il n'y en a pas, là.
Puis on parle de la guerre en Irak comme étant une horrible décision. Puis c'est drôle parce que, tu sais, dans l'opinion publique américaine à cette époque-là, quand même, même s'il y avait, ça a été fait beaucoup sur des mensonges, cette intervention-là, les gens voulaient quand même aller en Irak.
Les gens voulaient aller à la guerre en Irak parce qu'ils étaient convaincus.
Même si les Nations Unies aussi étaient contre. Là.
Tout le monde était contre. C'est à part les Anglais, puis les Australiens, puis les Américains, tout le monde était contre. Ouais. Mais l'idée, c'était, il faut se venger, Saddam Hussein nous veut du mal, il y a un lien entre Saddam Hussein et le terrorisme. Tout ça est faux, mais on ne l'apprend pas sur le moment. Aujourd'hui, ça va faire 20 ans la semaine prochaine là, du début de la guerre en Irak. Et encore aujourd'hui, il y a des sondages qui démontrent qu'il y a à peu près 40 % d'Américains qui sont convaincus que c'est Saddam Hussein qui est derrière le 11 septembre. Parce que la propagande était telle, et les journalistes ont été extrêmement complaisants avec l'Irak. Les journalistes n'ont pas remis en question le discours officiel, ont écarté toutes les sources qui disaient « Attention, là, Saddam Hussein puis Ben Laden, ils se tiennent pas ensemble. Il y en a un qui est super laïque, l'autre qui est super religieux. Ils se fréquentent pas, ces deux gars-là. C'est impossible. » Et on les écoutait pas parce que le traumatisme du 11 septembre est encore tellement frais. Les journalistes étaient physiquement, moralement, psychologiquement touchés par ça. Donc, ils ont perdu un peu leur objectivité ou leur professionnalisme pour dire, on est des Américains. Vous aviez des journalistes vedettes qui allaient pleurer dans les talk shows, enroulés dans le drapeau américain en disant que George Bush me demande quelque chose et je le ferai, alors qu'il traitait de moron deux semaines avant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est leur propre terme. Elle est là la différence, et c'est pour ça que l'administration Bush a pu faire tout ce qu'elle a fait, parce qu'elle avait cet appui-là. Encore une fois, l'appui, on va le perdre quand on se rend compte que sur le terrain, ça va pas bien.
C'est ça que je m'en allais vous poser, justement. On a un appui au début, mais dès 2004, on se rend compte qu'il y a un renouveau du syndrome du Vietnam s'opère.
Parce qu'on nous promet une victoire en 100 jours. On nous promet un scénario à la guerre du Golfe, encore une fois. On a George W. Bush sur un porte-avions, mission accomplie, puis qui arrive lui-même avec son saut de pilote alors qu'il n'a jamais piloté plus que deux jours. Les images sont très fortes, ça marque l'imaginaire. On a gagné. On n'a pas gagné, c'est le bordel en Irak. Puis Saddam Hussein, on ne sait pas il est où. Puis il y a du pillage, puis du vol, puis des meurtres. On n'a rien gagné. 10 ans après, on est encore là. On n'a pas gagné grand-chose. Là.
Même chose pour l'Afghanistan aussi.
Pour l'Afghanistan, c'est la même chose. Et puis on parle de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'était un pays détruit avant même que les États-Unis arrivent. On n'a pas réussi à remporter de victoire militaire. On était là plus que 10 ans aussi. si on pensait que le Vietnam, c'est un fiasco, là, on n'avait pas imaginé l'Irak puis l'Afghanistan. En même temps, mener deux guerres majeures en même temps pour n'importe quelle armée, on comprend que c'est difficile de gagner. Mais c'est ça, l'arrogance américaine, cette idée que par notre seule volonté, notre seule force de frappe, on est capable de gagner. Alors qu'on n'a aucune connaissance du terrain, alors qu'on réfléchit pas aux conséquences, alors qu'on n'a pas de plan clair. Et c'est ça que Powell, Colin Powell dénonçait ultimement en lien avec la guerre en Irak. C'est cette idée de, il faut avoir un plan. Il faut avoir un moment où on sait que ça, c'est quel est notre objectif, à quel moment on va pouvoir dire c'est une victoire militaire, c'est une victoire politique, c'est quoi notre stratégie de sortie, c'est quoi nos objectifs là précis. Puis si on n'est pas capable de définir ça avant de se lancer en guerre, vaut mieux pas y aller. Et personne l'écoute. Colin Powell, ben là, il est décédé, puis personne va l'écouter encore moins, mais je veux dire, personne l'a écouté, et ça a donné ce genre de fiasco-là.
Puis est-ce qu'on pourrait dire qu'en fait l'invasion d'Irak est aussi basée sur des raisons plus personnelles pour George Bush, là, peut-être plus dans la continuité de ce que son père avait fait lorsqu'il était président?
Ben, c'est difficile à dire parce qu'on peut pas être dans la tête de George Bush. Moi, je voudrais pas l'être, en tout cas dans la tête de George Bush, surtout depuis qu'il peint. Parce que il s'est devenu un peintre maintenant et je me moque toujours un peu de ses talents, alors que moi-même j'en ai pas, mais ça me dérange pas. Tout ça pour dire que je voudrais pas être dans sa tête. Puis il a dit effectivement, je veux venger mon père, parce que Saddam Hussein avait orchestré des menaces de mort à l'égard de son père suite à la guerre du Golfe. Mais s'il avait écouté un peu plus son père, peut-être que l'Irak se serait pas déroulé de cette façon-là, parce que George Bush, après la guerre du Golfe, avait dit, moi j'ai aucun intérêt à renverser Saddam Hussein. C'est pas aux États-Unis à faire ça. Si on renverse Saddam Hussein, c'est le chaos. On va perdre le contrôle du Moyen-Orient au complet, puis on veut pas ça. Mais il y a des gens qui étaient pas contents dans son administration. Ces gens-là, dont Dick Cheney, Donald Rumsfeld, se sont retrouvés dans l'administration du fils, puis ils ont dit, nous autres, on va aller au bout de ça. Et ça, c'est les premiers mois de la présidence de Bush, c'est le 11 septembre. Alors, très rapidement, il a aucune expérience, il est jamais sorti des États-Unis, il n'avait pas de passeport, George W. Bush, quand il est devenu président. Il n'est jamais sorti des États-Unis, c'était un propriétaire d'équipe de baseball, puis ça faisait bien son affaire, ça. Et puis là, soudainement, il est président des États-Unis, puis là, il est un peu influencé, un peu comme Kennedy quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il est un peu influencé par son équipe qui est plus expérimentée, qui a des objectifs politiques très précis, et se laisse manipuler par eux. Et en 2004, il reprend un peu le contrôle aussi. Là, il prend l'expérience, il réalise que ses conseillers l'ont mis un peu dans le pétrin, puis il se dit, OK, là, vous m'avez mis dans le trouble, je vais arrêter de vous écouter. Dick Cheney perd beaucoup de son influence dans le deuxième mandat parce que Bush dit, attends un peu, tu m'as eu une fois, tu m'auras pas deux fois. Alors là, il faut sortir de là, il faut trouver une solution, puis je vais être mon propre président.
Oui, puis la porte de sortie de l'Irak, en fait, vous en parlez à la toute fin du livre, que c'est vraiment plus sous Obama que ça va se dérouler au final, le retrait définitif.
Oui, mais c'est un retrait dont on sait pas trop quand il se produit, puis comment ça se passe, parce que c'est un retrait un peu dans... On n'est pas dans la paix, dans l'honneur, là. On n'est pas du tout là, là. On est dans le retrait, dans la honte, là. C'est un peu ça. Alors, c'est pas très clair. Il y a eu plusieurs étapes. On retire des soldats. Mais là, en même temps, il y a beaucoup de gens qui reprochent à Obama ce retrait-là en disant, ben, à cause que les États-Unis se sont retirés, c'est ISIS qui a pris la place. Bon, encore une fois, damn if you do, damn if you don't. Même chose avec le retrait de l'Afghanistan. On appelle de tous nos voeux le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan. Biden le fait de façon un peu à la droite, on va le dire.
Oui.
Ben là, pourquoi qu'on est sorti de l'Afghanistan? Ben parce que ça fait 10 ans, vous me demandez de sortir. Donc, il y a toujours un peu cette...
Il n'y a pas de bonne méthode de sortir.
Il n'y a pas de bonne méthode. Puis souvent, il n'y a pas de bonne solution. C'est ça qu'on oublie. Il n'y a pas une bonne décision ou une mauvaise décision ou une bonne solution ou une seule solution. Des fois, on est bien intentionné puis ça se déroule mal parce qu'il y a plein d'autres conditions qui changent. Puis plus les conflits durent, ben plus c'est difficile de trouver une solution parce que les contextes changent puis on ne se rappelle même plus pourquoi on était là au début.
Ben, si on peut faire une ouverture sur le livre au final, c'est ça, on a donné plein d'exemples de limites de la puissance américaine. Encore aujourd'hui, on en voit les limites avec la Russie qui se donne le droit d'envahir l'Ukraine. Dans l'actualité, c'est la Chine qui intimide ses voisins. Pensez-vous que les États-Unis ont encore les moyens d'être la police du monde?
Je pense qu'ils ont les moyens, parce qu'encore une fois, en termes militaires, économiques, même politiques, les États-Unis sont encore une très grande puissance aujourd'hui. Je pense qu'ils ont perdu de la crédibilité. Depuis W. Bush, au moins, je pense qu'ils ont perdu beaucoup de crédibilité. Je pense que ni les alliés, ni les ennemis des États-Unis peuvent se fier à la parole américaine, parce qu'on voit que d'une administration à l'autre, ça peut changer. On a vu avec Trump aussi comment un jeu d'alliance a changé, parce que Trump critiquait les alliés traditionnels, serrait la main et donnait des accolades aux dictateurs de pays ennemis, etc. Donc, ça a un peu changer les rapports de force d'une certaine façon. Et il y a une fatigue de l'opinion publique américaine aussi, des guerres, des conflits, alors qu'on a des crises économiques. C'est un peu ça qu'Obama a vécu aussi. C'est un peu pour ça qu'il pouvait pas se permettre d'aller en Syrie, parce que les Américains en avaient jusque-là de la guerre, en pleine crise économique. Alors, les Américains sont en train de se déchirer entre eux à l'heure actuelle. Alors, de se projeter à l'extérieur des États-Unis, ça devient difficile aussi. Alors, c'est pas tant une question de moyens qu'une question de volonté, je vous dirais. Est-ce que les Américains ont encore envie de jouer ce rôle-là? Est-ce que les citoyens américains sont prêts à accepter le prix de cette puissance-là, de cette hégémonie-là? Et ça, je suis pas certaine.
Puis, est-ce que ça amène les États-Unis à jouer un rôle de second plan, en fait, dans le système international, étant donné qu'on est rendu dans un monde davantage multipolaire? Tu sais, on peut plus arriver puis s'imposer. Il faut davantage, je vais dire ça comme ça, le dealer.
Il faut négocier.
Il faut dealer.
Tout
maintenant.
À fait. Tout à fait. Maintenant, je suis pas sûre que les Américains vont négocier à n'importe quel prix, notamment avec la Chine. Biden poursuit d'ailleurs la politique de Trump à cet égard-là, une politique de confrontation avec la Chine. La Russie, c'est plus difficile parce qu'en termes d'arsenaux nucléaires, là, c'est plus difficile de négocier avec la Russie, donc on marche un peu plus sur des œufs. Mais je pense pas que les Américains sont prêts à accepter d'être une puissance de second ordre ou d'être deuxième. Là. Ça, je suis pas certaine. Je pense qu'ils sont davantage dans une position de repli. Si on peut pas être dominant, on sera nulle part. Arrangez-vous, puis nous, on va faire nos affaires. Mais encore là, je dis ça sous toute réserve parce que les conditions géopolitiques changent rapidement. Si Trump revient à la Maison-Blanche, épargnez-moi cette souffrance, s'il vous plaît.
C'est
si Trump revient, ou DeSantis, je ne suis pas sûre que c'est tellement mieux, mais il y a tellement de mouvance présentement à l'intérieur même des États-Unis que ça devient difficile de prévoir ce qu'ils vont faire à l'international parce qu'il n'y a plus de consensus entre les Américains sur quels sont les objectifs de la politique étrangère américaine. Vous avez DeSantis qui vient de dire faut arrêter d'aider l'Ukraine. Vous avez Biden qui dit faudra en faire plus. Alors il y a tellement de d'écart entre les républicains et les démocrates sur la politique étrangère, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Jusqu'au 11 septembre, on n'avait pas ça. Il y avait une espèce de consensus sur quels sont les principaux objectifs de politique étrangère. On n'a plus ça aujourd'hui, alors ça devient un peu imprévisible.
Mais la polarisation, en fait, qui a même à l'interne...
a un impact sur la politique étrangère.
C'est quand même fascinant.
Tu sais, on parlait de culture aussi. Au début, la culture américaine qui a colonisé le monde un peu à travers la mondialisation, donc... La mondialisation, quelque part, c'est un peu aussi une McDonaldisation du monde à des égards. Donc, qu'il y ait du hard power, si on veut, là, des forces militaires américaines qui interviennent dans le monde ou non, je pense qu'on peut quand même dire qu'il reste un empire invisible.
Bien sûr. Il faut pas sous-estimer l'empire culturel américain. Le soft power. Il faut pas sous-estimer l'attrait culturel des États-Unis. Ça, c'est clair.
Je pense que ça fait quand même le tour, honnêtement, de... La mise en échec, en fait, américaine, puis en fait, des quelques pistes de perspective pour le futur. Merci Renaud, merci Mélina. Surtout, merci beaucoup, madame
merci
Raymond.
À vous. C'est très agréable.
C'était vraiment, je vais dire ça comme ça, c'était vraiment nice.
Moi, merci à toi, Marco. Oui.
J'ai vraiment aimé ça. Puis j'espère que, en fait, vous n'avez un peu plus appris, en fait, que ce qu'on voit de la perspective plus culturelle, puis de, je veux pas dire Hollywoodidas.
Non, mais classique qu'on voit dans les médias. Là.
Ouais, non, c'est ça. Puis je trouvais la perspective intéressante à amener. Donc, merci beaucoup à vous.
Merci.